Bonjour, chers auditeurs.
Bienvenue sur RVM.
Nous sommes les élèves de la classe de CM1 de l'école des remparts de Verberie.
Nous vous présentons le second numéro de notre émission.
Dans le cadre d'un défi scientifique sur le thème « Ma planète et moi », nous avons travaillé sur trois articles issus d'un blog écologique qui a pour nom « Sauvons la planète ».
Nous avons interviewé un expert en biodiversité, M. Marc Baldec, le directeur des CPIE des Pays de l'Oise, afin d'approfondir et de mieux comprendre ces articles.
Le sommaire est terminé, ça tourne. On vous souhaite une bonne émission.
Bonne émission!
Avant de commencer l'interview, pourriez-vous, s'il vous plaît, vous présenter? Vous êtes le directeur des CPIE des Pays de l'Oise. Que veut dire CPIE?
Oui, bonjour. Donc, je suis Marc Baldec, le directeur du CPIE des Pays de l'Oise. En fait, pour me présenter en quelques mots, eh bien, j'ai 40 ans, je suis marié, je suis père de deux enfants et j'habite Senlis. Le CPIE des Pays de l'Oise, c'est une association, loi 1901, qui s'occupe d'éducation et de sensibilisation à l'environnement. Alors, nous travaillons avec les écoles, avec le grand public, pour faire passer le message de l'importance de la protection de la nature, de la protection de l'environnement, et puis pourquoi il est agréable aussi de découvrir toute la faune et la flore de l'Oise.
Pourquoi dit-on Pays de l'Oise?
Eh bien, notre association, c'est bien simple, elle travaille à l'échelle du département de l'Oise. Voilà, donc on est le CPIE des Pays de l'Oise. Il y a beaucoup de CPIE dans toute la France. Il y en a 7 dans la région des Hauts-de-France et plus de 70 dans toute la France.
Nous avons travaillé sur plusieurs articles.
Le troisième et dernier article avait pour titre « Bonne nouvelle pour la planète ». Première question, qu'est-ce que les climato-sceptiques?
Alors, les climato-sceptiques, c'est des personnes qui ne pensent pas que le changement climatique, c'est une vraie réalité. C'est des gens qui pensent potentiellement que c'est pas nous, c'est pas les activités humaines qui sont capables de changer le climat, ou c'est des gens qui pensent que ça va pas être aussi grave que ça. Donc, voilà. Après, il y a des gens aussi, parce que c'est un sujet scientifique, et il y a des gens qui, pour des raisons scientifiques, disent « Oui, vous vous trompez, c'est pas comme ça ». Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les climato-sceptiques. C'est plutôt une minorité des personnes, puisque aujourd'hui, le consensus, et on s'en aperçoit presque tous les jours, si j'ose dire, est que le climat est en train de changer, et changer assez rapidement, et pas pour le meilleur.
Prendre des bonnes mesures de façon à répondre à l'urgence, l'urgence climatique et l'urgence de la destruction du vivant de façon adaptée. Parce qu'on a sur nos consciences la responsabilité de vies qui disparaissent. Aujourd'hui, une grande partie des conflits dans le monde sont générés par des inondations, par des sécheresses.
Axel Garçon, dans l'article, il y a le sigle GIEC. Qu'est-ce que cela veut dire ?
Ce sigle, on l'appelle plus communément GIEC. Donc, le GIEC, c'est un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. En fait, c'est un groupe de scientifiques de tous les pays du monde, à peu près, qui est affilié à l'ONU, hein, l'Organisme des Nations Unies, et donc qui travaille à étudier la question du climat, et du coup qui fait des recherches sur l'évolution du climat et les conséquences que peuvent provoquer les activités humaines sur notre planète et sur le climat qui va faire demain. Voilà.
Car c'est une question de santé, la terre est en danger. Tout est accéléré par l'homme et tous ses excès. Et je sais que vous sentez que dans l'air pollué, que tout a changé et que ça va mal terminer.
Julia Cazé, dans l'article, il y a le sigle CFC. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire?
Alors, les CFC, c'est un composé chimique, on en a beaucoup parlé dans les années 80-90. C'est des chlorofluorocarbones. En fait, c'est un gaz qui a des conséquences très graves pour la couche d'ozone. Donc, c'est un gaz qui est particulier. En fait, il était très facile à produire, un peu comme le plastique, et en plus, il était très stable. Alors, les ingénieurs se sont dit, tiens, c'est très pratique d'utiliser le CFC pour plein d'applications. Alors, on utilisait ce gaz dans les réfrigérateurs ou dans tous les sprays que l'on utilisait auparavant. Et un jour, les scientifiques se sont aperçus qu'il y avait un trou dans la couche d'ozone qui était en train d'apparaître, notamment au niveau des pôles, donc le pôle nord et au pôle sud. Et on s'est aperçu après que c'était ces gaz produits par l'homme qui, par une réaction chimique, avaient tendance à détruire cette couche d'ozone. Voilà.
RVM 93.7. Vous écoutez les rois de la radio.
Que représente le taux de CFC qui est égal à 30 millions de kilomètres carrés?
Alors, je ne suis pas sûr de complètement comprendre la question, mais ce qui est certain, c'est que plus on rejette de CFC dans l'atmosphère, eh bien, plus ce CFC va se répandre, va monter et attaquer la couche d'ozone. À coup sûr, si on augmente les émissions en CFC, eh bien, ça va avoir pour tendance à augmenter la surface de la planète où la couche d'ozone est abîmée. La couche d'ozone, est-ce que vous savez ce que c'est ? C'est une couche de gaz qui est vraiment dans la haute atmosphère, qui est composée d'ozone. C'est O3, c'est trois atomes d'oxygène qui sont ensemble et qui créent une sorte de voile protecteur, ce qui va filtrer la lumière du soleil et qui va empêcher les rayons les plus dangereux d'arriver au sol. Du moins, il va y en avoir moins de rayons dangereux et ça va faire qu'on ne va pas avoir des coups de soleil, par exemple. Et quand la couche d'ozone disparaît, eh bien là, c'est dangereux parce qu'on risque des coups de soleil ou des cancers de la peau. Donc, il faut absolument préserver la couche d'ozone.
Luna, dans l'article, on évoque une certaine Greta Thunberg. Qui est-elle ?
Greta Thunberg, c'est une petite Suédoise. Je crois qu'elle est à peu près... c'est une adolescente. Et c'est vrai qu'elle a un destin peu commun. En fait, elle est un petit peu spéciale parce que elle est autiste, mais elle n'est pas du tout idiote. Et elle a fait quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire qu'elle a décidé toute seule de faire la grève de l'école le vendredi. C'est comme si demain, vous n'allez pas à l'école, vous faites la grève, les enfants. Et ben, elle a décidé de faire ça, pas pour faire l'école buissonnière, mais pour mobiliser, pour parler du climat, pour mobiliser les enfants, pour mobiliser les adultes et même les médias, pour que les gens décident de vraiment changer les choses. Pour elle, la situation est grave et il faut vraiment agir maintenant et agir fort. Voilà. Donc, elle a été connue, elle est connue depuis quelques mois et elle a lancé un mouvement un petit peu de manifestation un peu dans tout le monde et elle a fait beaucoup, beaucoup parler d'elle.
Our biosphere is being sacrificed so that rich people in countries like mine can live in luxury. It is the sufferings of the many which pay for the luxuries of the few.
C'est cool parce que maintenant ça va améliorer le monde plus tard alors.
Alors c'est ce qu'on peut espérer, il faut toujours avoir l'espoir et c'est certain que si les enfants se mobilisent, si les adultes se mobilisent, si tout le monde se mobilise, eh bien on peut se dire tiens bah on va changer les choses, on va aller dans le bon sens et les catastrophes que l'on prédit ne vont pas se passer. Voilà, c'est un type d'action que l'on peut faire, ça, manifester, faire la grève, c'est très bien. peut-être que on peut faire aussi d'autres choses, passer à l'action vraiment, plutôt que de dire et de manifester, de battre le pavé. Peut-être qu'il est aussi intéressant de changer son comportement soi-même. Comment on peut changer son comportement? Eh bien, comme on l'a dit, en utilisant moins de sacs plastiques et puis en utilisant des sacs réutilisables, en achetant en vrac. On peut aussi changer sa manière de faire en consommant différent. C'est-à-dire que c'est pas la peine d'avoir une voiture énorme. On peut peut-être avoir une voiture qui est petite et qui consomme pas beaucoup de carburant. C'est peut-être pas la peine aussi de changer tous les 2 ou 3 ans de téléphone portable ou de changer d'habit à chaque saison parce que c'est la mode. Donc si tout un chacun mène des actions comme ça, eh bien ça va avoir un impact positif sur l'environnement parce que on va moins gaspiller, moins jeter, moins détruire la nature.
Lucas ou Sarre? En fait, moi, quand, par exemple, mes cousins peuvent plus porter leurs affaires, au lieu de les jeter, ma tata me les donne.
Eh ben, c'est très bien. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Il faut vraiment essayer au maximum d'utiliser le plus longtemps possible les choses, de bien être soigneux et de pas abîmer ses affaires et se passer les uns les autres entre frères et sœurs, entre familles, entre cousins ou même d'apporter ses vieux habits parce qu'on n'a plus de bébés et on les donne à quelqu'un qui en a besoin.
Petite pause musicale. On va écouter Soprano avec Roule.
Le jour se lève, la vie reprend, faut remplir la gamelle, mais tout en souriant. Les proches appellent, ils prennent des nouvelles, mon sourire leur ment, rien n'est plus comme avant. Je fais semblant, au milieu des gens, je chante, je danse, mais quand arrive la nuit, ton sourire et ton fou rire font trop de bruit, impossible de dormir. Donc je roule, 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 roule dans les rues de ma ville. L'arme à l'œil, la boule au ventre, je refais le monde avec des si. Oui, je roule, 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 roule jusqu'au bout de la nuit. J'accélère, majeur en l'air, en insultant ta foutue maladie. Yeah, 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 yeah. À toi, on pleure parfois, on se demande pourquoi, mais ainsi va la vie. Au moins cette fois, ta douleur n'est plus là, tu reposes en paix, on croit au paradis. Tu nous voulais fort, tu nous voulais heureux, donc j'ai repris le sport, j'ai fait de mon mieux. Mais la nuit, ton souvenir fait trop de bruit, impossible de dormir. Donc je roule, 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 roule dans les rues de ma ville. L'arme à l'œil, la boule au ventre, je refais le monde avec des si. Oui, je roule, 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 roule jusqu'au bout de la nuit. J'accélère, majeur en l'air, en insultant ta foutue maladie. Rien ne sera plus comme avant, il est temps d'aller de l'avant, il est temps de dire au revoir. Sur le quai de l'insomnie, tous les trains me mènent à lui, donc comme tous les soirs. Oui, je roule, 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 roule dans les rues de ma ville. L'arme à l'œil, la boule au ventre, je refais le monde avec des si.
Vous écoutez la classe de CM1 de l'école des remparts de Verberie.
Ils ont interviewé M. Marc Baldeck, directeur des CPE de l'Oise.
Merci de nous écouter. Quelle est la cause de disparition des rhinocéros blancs au début du XXe siècle?
Bien malheureusement, les rhinocéros, ils continuent de disparaître, hein, les blancs comme les noirs ou les rhinocéros d'Asie. Alors, très souvent, les rhinocéros, ils sont chassés, ils sont braconnés pour leurs cornes. Parce que vous savez, le rhinocéros, ça veut dire qui a une corne sur son nez. Souvent, on chasse les rhinocéros pour deux choses. Dans les pays arabes, ils aiment bien avoir des poignards. On voit ça dans Tintin, hein. Des poignards à la ceinture. Et ils veulent, les riches arabes, avoir des poignards qui sont décorés avec la corne de rhinocéros. Et donc, il y en a qui sont prêts à payer très cher pour qu'on tue un rhinocéros pour avoir un beau poignard à la ceinture. Ça, c'est une forme de braconnage. Il y a une autre raison de braconnage aussi, c'est en Asie, il y a des gens qui croient que la corne de rhinocéros, c'est quelque chose de magique. Si on la réduit en poudre, eh bien, on peut faire un médicament avec cela. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à acheter des médicaments traditionnels avec de la poudre de corne de rhinocéros. Et voilà, du coup, ça incite les gens à tuer les rhinocéros, à les braconner. Alors, heureusement qu'il reste encore quelques réserves naturelles, des parcs nationaux en Inde ou en Afrique, où subsistent quelques rhinocéros, mais les espèces de rhinocéros sont très menacées.
Est-ce que les riches arabes veulent décorer avec seulement de l'ivoire ?
Alors, la corne de rhinocéros, c'est pas de l'ivoire. Tu sais en quoi c'est fait, la corne du rhinocéros ? Eh ben, c'est de la kératine. C'est la même matière que tes ongles ou que tes cheveux. Donc, c'est pour ça que c'est un peu ridicule de faire de la poudre de corne de rhinocéros, parce que autant faire de la poudre d'ongles, hein. Voilà, d'une part. Mais alors, après, les gens qui sont riches, ils veulent... c'est comme les peaux de tigre ou de lion, c'est comme les défenses d'éléphants avec lesquelles on peut faire, c'est vrai, de magnifiques objets, ou c'est comme les bois précieux. C'est des choses qui sont rares, qui sont fabriquées par la nature, qui sont très belles. Malheureusement, on est trop nombreux à vouloir avoir des objets fabriqués avec de la peau d'animaux, avec des défenses, et du coup on les tue, et c'est là où c'est le problème, c'est que ces animaux disparaissent.
Est-ce que les riches arabes, ils vont arrêter de menacer les animaux quand ils vont comprendre ?
Il n'y a pas que les riches arabes, hein. Souvent c'est les riches de tous les pays qui détruisent un peu, hein. Il y a les riches chinois, les riches japonais et les riches européens ou les riches américains. Chacun sa passion. Je pense que c'est vrai que dans les pays arabes, ils aiment bien avoir un poignard parfois autour de la ceinture. Pour d'autres, ça sera un piano avec des touches en ivoire, ou un meuble marqueté avec de l'ébène, ou encore, comme je vous le disais, de la pharmacopée chinoise. C'est des gens qui veulent, je sais pas moi, des écailles de pangolin, qui veulent des glandes de mammifères pour faire du parfum ou pour faire des médicaments. Et il y a plein de raisons pour tuer les animaux et en faire quelque chose.
Pourquoi les riches arabes, ils veulent avoir des cornes de rhinocéros pour montrer leur richesse ?
Tout à fait. Il y a des gens comme ça qui veulent avoir une belle montre en or, un beau poignard, des bijoux. Vous savez, soit c'est une corne de rhinocéros, soit c'est un très beau diamant, un très beau rubis, un bijou. Et pour ça, il faut aller le chercher. Il y a aussi des problèmes avec les diamants. Il y avait beaucoup d'affaires. Toutes les ressources qui sont rares, les gens qui ont de l'argent veulent, pour montrer qu'ils sont riches, avoir quelque chose qui est rare, et du coup le prix augmente, et du coup il y a des gens qui, pour vivre, parce que parfois ils n'ont pas d'autres moyens, ils vont se mettre à braconner des espèces animales, ou à couper des arbres, ou à creuser des trous pour chercher des diamants ou chercher de l'or. Et le problème, c'est que ça détruit la planète.
Mais ça sert à rien de tuer les rhinocéros, parce que c'est comme si on tuait des humains pour avoir quelque chose de leur corps.
Oui, alors on a bien expliqué que les rhinocéros, c'était dommage de les tirer, parce que la corne, c'est pas grand-chose en soi, et surtout pas pour faire un médicament. Après, c'est sûr qu'il faut respecter les animaux. et les plantes parce que ils sont tout aussi importants que nous et il faut apprendre à les préserver parce que si on les détruit, eh ben on va détruire la biodiversité, on va détruire les écosystèmes et après nous on va l'homme ne va pas pouvoir vivre tout seul sur la planète hein. On a besoin des animaux et des plantes pour vivre hein. Donc il faut vraiment les préserver parce que sinon c'est pas qu'on va se retrouver tout seul et qu'on va s'ennuyer, c'est que tout simplement il y aura plus les conditions pour que nous puissions vivre également sur cette planète.
On vient de la poser. Ah.
Combien d'espèces d'animaux sont en voie de disparition ?
Alors, il y a énormément d'espèces d'animaux en voie de disparition. Il y a des listes rouges pour les espèces qui sont connues. Il y a plein d'espèces qui sont en train de disparaître que l'on ne connaît pas du tout. Et actuellement, les scientifiques, les écologistes, les naturalistes disent que on vit une période de disparition très importante de la biodiversité. Comme presque aussi importante qu'à l'époque quand les dinosaures ont disparu, ou encore il y a plus longtemps, il y a eu dans l'histoire de la Terre plusieurs épisodes de disparition des espèces. Et là, l'homme, par son action, est en train de détruire vraiment beaucoup d'écosystèmes. Et du coup, il y a beaucoup d'espèces qui disparaissent. J'ai pas le chiffre en tête parce que, de toute façon, ça veut rien dire. Mais par contre, on parlait que dans les décennies qui viennent, pour y avoir jusqu'à 1,5 million d'espèces vivantes qui vont disparaître. Ce qui est énorme. Comment faire pour qu'ils ne disparaissent pas, une des options, c'est déjà de préserver les espaces naturels. On dit que si on préservait 50%, c'est-à-dire la moitié de la planète, en créant des réserves naturelles, des parcs nationaux, des zones où on n'a pas le droit de pêcher, eh bien, on préserverait presque 85% de la biodiversité. Une des premières choses à faire, c'est de créer des zones naturelles préservées où l'homme ne fait plus de bêtises et préserve la nature. Et puis après, il y a plein d'autres choses à faire. On en a parlé, c'est diminuer le gaspillage, diminuer notre consommation énergétique, et puis faire que nos activités humaines, elles soient plus respectueuses de la nature. Par exemple, dans nos campagnes, ça serait bien qu'on utilise moins de produits chimiques, moins de pesticides, et qu'on remette un petit peu de haies, qu'on ait des prairies. Et ça ferait beaucoup de bien pour la nature.
Lucas, en fait, moi j'ai regardé à la télé et il disait qu'apparemment les requins marteaux étaient extrêmement en voie de disparition et que dans des parcs, enfin dans des. Dans des aquariums, etc., les gens savaient que les requins marteaux vivaient sous l'eau, mais très profond, extrêmement noir, et qu'ils ne pouvaient pas vivre ensemble, sinon ils se tueraient entre eux.
Oui, alors on a parlé un peu de requins marteaux ces derniers temps à la télévision, parce qu'il y a, je crois, un aquarium où tous les requins marteaux qui étaient dans l'aquarium sont morts. Et alors, il y a des gens qui disent, c'est vrai, à raison, c'est dommage parce que les requins marteaux sont une espèce qui est en voie de disparition dans les mers du globe. Et c'est dommage d'en prendre et d'en mettre dans des aquariums parce que ça peut menacer déjà les espèces sauvages. Et puis par ailleurs, en fait, quand on les met dans des aquariums, ils peuvent mourir parce que, en fait, ils ont rien à faire dans un petit aquarium. Et ce qu'il faut, c'est qu'ils vivent en pleine mer et que c'est la raison pour laquelle ils sont morts.
Quel est le degré d'importance de la pétition qui s'appelle l'affaire du siècle ?
Alors, on parlait de l'importance de manifester, de faire la grève de l'école le vendredi. On parlait de l'importance d'agir. On peut agir, c'est vrai, pour mobiliser le grand public, les foules, et pour un petit peu interpeller nos politiques en faisant des pétitions. Et c'est le principe de cette pétition, l'affaire du siècle. C'est comme tout, les pétitions, c'est très important, c'est pas suffisant. Je pense qu'il est important d'agir à tous les niveaux, de faire des pétitions, potentiellement, pourquoi pas, de manifester, mais surtout d'agir au quotidien pour faire changer les choses, parce que le système tel qu'on connaît, on en est tous un peu responsables, on est tous acteurs du système, et si tout un chacun décide un peu de faire d'évoluer de lui-même, eh ben ça va aider à un changement plus global. Voilà. Donc la pétition c'est bien, mais agissons au quotidien, c'est mieux.
Et maintenant une pause musicale avec le groupe One Republic et le morceau Tinning Star.
Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. Baby, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. River every turn, hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Oh, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told.
Écoutez la classe de CM1 de l'école des remparts de Verberie.
Ils ont interviewé M. Marc Baldeck, directeur des CPE de l'Oise.
Merci de nous écouter. Léa, que signifie la hausse des températures de plus de 1,5 degré et quelles sont les conséquences sur les humains?
Eh bien, justement, les scientifiques qui étudient le climat disent qu'actuellement, il y a un changement climatique qui est à l'œuvre et qui est causé par les activités humaines et notamment les rejets de gaz à effet de serre, c'est-à-dire que on consomme beaucoup d'énergie, ça brûle et il y a des gaz qui montent dans l'atmosphère, les fumées, et ces fumées s'accumulant dans l'atmosphère, eh bien ont une réaction avec les rayons du soleil. Garde plus la chaleur, un peu comme quand t'as froid, tu rajoutes une couverture, bah tu vas avoir plus chaud. Et bah les gaz, ils vont faire, ça va être comme une couverture qu'on rajoute sur la planète et ça va nous donner chaud et ça va du coup changer le climat Et donc, 1,5 degré, c'est, on dit qu'aujourd'hui, on a augmenté à peu près de un peu moins de 1 degré. Et 1,5 degré, c'est ce qu'on risque d'avoir dans quelques décennies. Il y a même des scientifiques et des hypothèses qui disent que ça va pas être 1,5 degré, mais si on continue à faire des bêtises, ça sera 2, 3, 4, 5 degrés en plus. Alors ça a pas l'air très important comme ça, mais déjà 1,5 degré en plus, c'est vraiment beaucoup. Moi, je vous garantis que j'ai 40 ans, quand j'avais votre âge, quand j'allais à l'école primaire et que j'étais un petit écolier bien sage, eh bien, on n'avait pas forcément les mêmes température que vous avez pu connaître ces dernières années. L'année passée, il a fait très très chaud l'été. Et ben moi, quand j'avais votre âge, et ben j'ai jamais connu un été aussi chaud, jamais de la vie. Votre professeur hoche de la tête, c'est pareil. Et donc ça nous inquiète à nous les adultes parce que on se dit tiens, mais c'est pas possible que ça change aussi vite. Et donc c'est pour ça que il est important d'agir. Alors 1,5 degré, qu'est-ce que ça va provoquer? Bah, ça va provoquer certainement des étés plus chauds, peut-être des hivers moins froids, on va moins voir la neige. Et puis aussi, potentiellement, bah, il y a des animaux, des insectes ou des maladies qui vont venir des pays chauds parce qu'ils se disent « Ah, mais avant, en France, il faisait froid, mais maintenant, il fait chaud. » Alors, donc, il y a les petits moustiques qui arrivent, il y a des maladies qui arrivent. Et donc, ça peut avoir des conséquences assez dangereuses.
Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes. Poison dans les fontaines, dans nos campagnes. De cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau. Reste notre idéal, faire les beaux.
Julia, est-ce que les frelons asiatiques étaient les premiers insectes à venir en France ?
Le frelon asiatique, c'est intéressant parce que c'est une espèce exotique envahissante. C'est-à-dire qu'une espèce exotique, c'est une espèce qui n'habitait pas chez nous et qui vient d'ailleurs. Le frelon asiatique, il vient de Chine. Et en fait, il a été introduit en France, malencontreusement.
Par une cargaison de bananes ?
Pas forcément. Moi, ce qu'on m'a raconté, c'était que c'était un marchand de fleurs et dans un pot, il y avait un nid de frelons asiatiques et il y a un ou deux frelons asiatiques qui se sont, peut-être une reine qui s'est échappée du nid. Et après, elle a créé sa première colonie. Ça, c'était dans la région de Bordeaux. Et il y a une dizaine d'années et aujourd'hui, cette espèce est en train de coloniser toute la France à vitesse grand V. Ça fait un ou deux ans qu'on en parle vraiment beaucoup dans l'Oise et qu'on le voit vraiment de manière très fréquente. Et là aussi, il y a deux, trois, quatre, il y a trois ans, je n'avais jamais vu. Et cet été, l'été dernier, il y en avait partout. Il y en avait sur mes arbres fruitiers. Donc, on a vu des nids aussi à l'automne, quand les feuilles sont tombées, il y avait des nids dans plein d'arbres. Et cette espèce, elle ne vient pas à cause du changement climatique. Elle vient parce qu'il y a des échanges commerciaux. Il y a plein de marchandises qui viennent de plein de pays, notamment de Chine, où tu parlais de cargaison de bananes. Parfois, il y a même des serpents ou des araignées qui peuvent être apportés dans des cargaisons de bananes. Hein. Plus il y a d'échanges, plus il y a des risques d'importer des espèces, parfois des espèces qui s'installent et qui font souche.
Quelle sorte de maladies ils arrivent ?
Alors, de plus en plus, en Europe du Sud et même en France, il y a des maladies qui peuvent arriver avec les moustiques. C'est des maladies qu'on trouvait plutôt en Afrique ou en Asie et qu'on va retrouver maintenant dans le sud de l'Italie, dans les Balkans et même dans le sud de la France. Et donc, parfois maintenant, quand on se fait piquer par un moustique, on peut avoir une forte fièvre. C'est très problématique.
Que veut dire l'engagement croissant de la population en faveur de l'écologie ?
Eh bien, en fait, il y a de plus en plus de personnes, heureusement, au sein du grand public, dans les écoles, dans les familles, et même dans les entreprises parfois, ou dans les partis politiques, qui parlent d'écologie parce que en fait, les scientifiques qui étudient ces sujets-là se rendent compte que la situation est grave, on fait passer des messages et il y a de plus en plus de gens qui comprennent que effectivement, il faut changer les choses, Et du coup, il faut s'engager en faveur de l'écologie. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un motif d'espoir, parce que plus on sera nombreux à penser comme cela, plus on peut se dire on sera fort pour changer les choses et faire que on arrive à améliorer notre futur.
Sana, pourquoi les objets contenant du chlore sont-ils interdits maintenant ?
Alors c'est de nouveau cette question, je pense, de CFC. Il y avait des produits comme les bombes à raser, toutes les bombes à crème chantilly, tous les produits réfrigérants qu'il y avait dans les frigos, eh bien, contenaient du gaz avec du chlore, et ce gaz détruisait la couche d'ozone. Quand on s'est rendu compte que ces gaz étaient dangereux, il y a des lois qui sont passées au niveau mondial, et donc on a décidé de changer les gaz qui allaient être utilisés pour les frigos, pour les bombes. Et du coup, maintenant, on n'a plus du tout le droit d'utiliser ce gaz qui est très toxique et très dangereux pour la couche d'ozone.
Selon vous, dans toutes les choses réfrigérantes que vous avez dit, comme la chantilly, ça pollue autant sur la couche d'ozone aussi ?
Alors les nouveaux produits, à mon avis, ils polluent pas. C'était les anciens, le CFC, ce gaz, dès qu'on le mettait dans l'atmosphère, il était très léger, il montait et il détruisait la couche d'ozone. Donc maintenant, on a trouvé d'autres gaz qui sont peut-être un peu plus chers à produire, mais qui sont heureusement plus neutres. Enfin, du moins, on pense qu'ils n'ont pas d'effet négatif dans l'atmosphère.
Par exemple, comme vous dites, dans les bouteilles de chantilly qu'on fait par exemple à la maison, les espèces de capsules qu'on met qui contiennent du gaz, après vous, est-ce que c'est vraiment toxique ou pas ?
Bon, alors, dans tous les cas, moi je vous déconseille fortement d'inhaler ou de respirer tous ces sprays. Hein. Le gaz qu'il y a dedans, il n'est pas bon pour la santé. Mais comme je vous l'ai dit, on peut penser que les nouveaux gaz qui sont utilisés maintenant par les industriels dans les bombes et les sprays ne sont ni toxiques pour l'homme à faible dose, ni problématiques pour l'atmosphère et la couche d'ozone.
Pourquoi le pétrole va-t-il bientôt disparaître ?
Comme toutes les ressources naturelles, l'homme, par son développement, commence vraiment à avoir une économie qui est tellement développée qu'on a besoin de plus en plus de matières naturelles, d'énergie, même pour l'alimentation, hein, on va trop pêcher dans les océans. Donc on prélève trop de choses. Et le pétrole, c'est des ressources qui sont... fossiles, ça fait il y a des milliards d'années ou il y a des centaines de milliers d'années, le pétrole a été créé sur Terre et en fait on est en train de prélever un stock qui est fini et ce stock il est plus ou moins accessible et on commence à avoir de plus en plus de mal à accéder à des nouvelles réserves de pétrole. Et les réserves qui étaient les plus faciles à accéder commencent à se vider. Et c'est pour ça que pas mal de gens commencent à se dire, tiens, il faut économiser le pétrole parce qu'il va vraiment se raréfier.
Petite pause musicale. Nous allons écouter Daddy Yankee and Snow et le morceau Con Calma.
¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl, con calma. Yo quiero ver cómo ella nos menea. Me besa boom boom girl. Tiene adrenalina, mete la pista, vente, hazme lo que sea. I like your boom boom girl. Hey, ya vi que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros tú lo sabes. Qué ganas me dan, dan, dan de guayarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal como lo mueve es un delito. Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminal. Y vete
quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl, con calma. Yo quiero ver cómo ella nos menea. Me parece boom boom girl, tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea. I like your boom boom girl.
De la radio.
Merci, monsieur Baldec, d'avoir répondu à nos questions.
Eh bien, merci à vous de m'avoir posé des questions qui étaient très intelligentes. J'ai eu beaucoup de plaisir à répondre à vos questions. On voit que vous vous intéressez vraiment à tous ces sujets. Et continuez à travailler avec votre professeur. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur la nature, la biodiversité, n'hésitez pas à demander à votre professeur. Je reviendrai ou un de mes collègues reviendra avec plaisir pour qu'on vous présente un peu la nature, les animaux, les fleurs, qu'on vous explique plein de choses, parce que la nature, c'est vraiment ce qu'il y a de plus joli sur Terre.
Merci, monsieur Baldec.
Attention, l'émission n'est pas terminée. On écoute Laurie de la classe des CM2 qui va vous parler du défi musique qu'il a fait avec sa classe.
Cette année, notre classe de CM2 a participé au défi départemental musique 2018-2019. Nous avons choisi de travailler sur la sonorisation du tableau Le Cri de Edvard Munch. Avec la maîtresse, nous avons travaillé sur la voix, le souffle, les percussions corporelles. Ensuite, nous avons appris le sun painting. Le chef donne des indications aux musiciens grâce à des gestes qui permettent de réaliser une création artistique en temps réel. On a appris à reconnaître les gestes, à les interpréter, à les reproduire. Il existe des gestes pour chanter, parler, crier, rire, souffler. Il y a aussi les gestes qui changent le volume ou la hauteur du son. Comme le tableau représente un homme qui crie, nous avons imaginé l'histoire de ce tableau. Ensuite, nous avons cherché des bruits et des sons pour créer une ambiance effrayante. La maîtresse a réparti la classe en 3 groupes. Chaque groupe a cherché des sons. Nous avons travaillé sur des sons graves, des souffles, des bruits de pas. Nous nous sommes entraînés durant plusieurs séances, puis nous avons enregistré notre production. Écoutons-la.
Oh.
Ruben, que veut dire zéro waste?
Il faut faire...
biodégradable et non biodégradable.
Qu'est-ce que cela veut dire?
La maîtresse a reparti...
Réparti.
Le sun painting.
Painting.
Je savais pas quoi dire.
Boum!
Tom, le chef donne les des...
La dernière fois, maman l'a regardé sur internet. Elle avait trouvé un serpent à trois yeux.
C'est chelou.
A participé au défi Ensuite, nous avons appris le sun painting.
Notre émission est terminée pour aujourd'hui. À la prochaine fois.
L'enfant est un petit adulte qui sait qu'il croit.